C'était à la fin des assises de Bordeaux. Un de nos membres s'est levé en disant au ministre de l'Industrie présent « Je ne peux plus travailler parce que le business ne se gagne pas en étant le meilleur, il se gagne avec des enveloppes et des dessous de table. » Et le ministre a répondu aux 800 dirigeants chrétiens présents « Messieurs, la corruption touche toutes les sociétés. Si vous, patron chrétien, ne faites rien, qui va le faire ?» Et nous avons lancé en France une campagne contre la corruption qui était d'abord de comprendre ce qu'est la corruption.
C'est difficile de cerner la corruption.
Alors, il existe des définitions de la loi, mais entre le trafic d'influence, l'abus de biens sociaux, enfin, on voit bien qu'il y a de multiples formes que peuvent prendre la corruption. Nous avons trouvé, nous, un critère simple et applicable. Et ce critère est la corruption commence à partir du moment où vous ne pouvez plus en parler. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit un bouquet de fleurs, je pense que ça ne choquera aucun collègue, mais que si on met une voiture devant la porte de l'acheteuse, elle va peut-être pouvoir s'interroger et elle hésitera peut-être à en parler à son chef d'entreprise. Donc le critère, au fond, a pas mal fonctionné.
Après avoir choisi ce critère, comment vous avez pu lutter contre la corruption ?
Eh bien, c'est un combat difficile parce que lorsque vous vous engagez dans une telle mission, on commence par vérifier si vous êtes blanc-blanc vous-même. Alors je peux vous dire que j'ai été contrôlé sous tous les angles. Dieu soit loué, on ne m'a pas trouvé trop brun. Ensuite, nous avons trouvé sur notre route des cas de corruption extrêmement lourds et graves, c'est-à-dire que certains étaient menacés de mort s'ils ne jouaient pas cette corruption. Moi-même, j'ai été accompagné par quelqu'un qui m'a dit « Monsieur, vous n'avez rien compris, vous vous lancez dans une opération, vous n'en sortirez pas indemne. » Or, nous avons fait des tables rondes avec les hommes politiques, avec les syndicats. Nous avons été voir des étudiants en droit, nous avons discuté avec des juges, avec la police judiciaire.
Et vous avez eu des résultats concrets ?
Oui. Cette campagne contre la corruption qui a reçu en France 6500 signatures de dirigeants, eh bien, petit à petit, chacun a pu parler de ce mot que personne ne connaissait, corruption. Il s'agit d'un achat de conscience. J'achète la conscience de l'autre avec de l'argent. J'achète de l'amour, j'achète de l'honneur. Ceci n'est pas acceptable et ceci détruit la démocratie, les règles économiques et détruit la dignité de la personne. Alors, nous avons été respectueux des personnes en les invitant à réfléchir sur les situations. En se rendant compte aussi que nous étions nous-mêmes parfois dans des situations de corruption, j'ai dû, pour ma vie d'entrepreneur, prendre des décisions radicales pour ne pas m'engager du tout dans ces voies. Et chacun mesure bien à ces moments où il faut dire non, que ça n'est pas facile du tout. Ce sont des cas de conscience, quelquefois avec la peur. Or, tout acte crée sa dynamique. Vous commencez à accepter un petit geste, ça peut être un compromis, et ceci est raisonnable. Si ça devient une compromission, il y a quelque chose de plus que la conscience individuelle doit identifier.
Pour aujourd'hui, quelles sont les priorités dans cette lutte ?
Je crois que l'économie, ce n'est pas que de la technique. L'économie est une question de culture. Des philosophes comme André Comte-Sponville disent que l'économie n'est pas morale et que le capitalisme est d'un autre ordre. C'est trop facile. Il est intéressant pour la raison de comprendre que la technique n'a rien à voir avec la morale et qu'un marteau n'a pas de morale, mais celui qui se sert du marteau engage des règles juridiques et éthiques. Et donc, dans notre société, il appartient de rappeler que cette éducation à la mondialisation prend en compte cette difficile culture de respect de la planète et de respect des hommes sans regarder que son intérêt personnel au bout de sa chaussure, eh bien c'est ce que nous essayons de faire à l'UNIAPAC et c'est à quoi l'Église nous encourage à inventer cette société au service de l'homme malgré toutes les contraintes de l'économie.